Anatole France, Jocaste. Quoi, monsieur Longuemare, vous mettez des grenouilles dans vos poches, mais c'est dégoûtant. Rentrez dans ma chambre, mademoiselle, j'en fixe une sur une planchette, et je lui découvre le mésentère que j'excite au moyen de pinces très délicates. Mais c'est affreux, elle souffre, votre grenouille. Elle souffre peu en hiver et beaucoup en été. Si le mésentère est enflammé par suite d'une lésion antérieure, oh, la douleur devient intense et le cœur cesse de battre. Et que vous sert de torturer ainsi de pauvres animaux? À édifier ma théorie expérimentale de la douleur. Je prouverai que les stoïciens ne savent ce qu'ils disent et que Zénon était un imbécile. Vous ne connaissez pas Zénon, mademoiselle. Ne le connaissez jamais. Il niait la sensation. Et tout n'est que sensation. Vous aurez des stoïciens un aperçu exact et suffisant. Quand je vous aurais dit que c'était des fous, sans gaieté, qui méprisaient la douleur avec une affectation insipide. Si quelqu'un de ces barbacoles s'était trouvé sous mes pinces, dans la position de ma grenouille, il aurait vu si on supprime la douleur par un acte de la volonté. D'ailleurs, il est extrêmement avantageux pour les animaux d'être doués de la faculté de souffrir. Vous plaisantez, à quoi peut servir la douleur? Elle est nécessaire, mademoiselle. C'est la sauvegarde des êtres. Si, par exemple, la flamme ne nous causait pas, dès la première atteinte, une excitation intolérable, mais nous nous retirions tous jusqu'aux os, sans nous en apercevoir. Il la regarda. Et c'est une beauté que la souffrance, ajouta-t-il. Richet a dit, il y a entre l'intelligence et la douleur un rapport tellement étroit que les êtres les plus intelligents sont ceux qui sont capables de souffrir le plus. Et naturellement, vous vous croyez capable de souffrir plus que personne. Je vous demanderai bien de me conter vos souffrances, mais j'aurais peur d'être indiscrète. Je vous l'ai dit, mademoiselle, Zénon était un sot. Si je souffrais beaucoup, je crierais. Quant à vous, qui êtes d'une organisation délicate et dont les nerfs sont des cordes sensibles, vous offrez à la douleur un instrument sonore, un clavier à 8 octaves, sur lequel elle pourra jouer, quand il lui plaira, les variations les plus savantes et les plus riches. Ah oui, ce qui veut dire en français que je serai très malheureuse. Mais vous êtes insupportable, on ne sait jamais si vous parlez sérieusement. Et vos idées sont tellement extraordinaires que le peu que j'en comprends me fera tourner la tête. Mais répondez-moi comme il faut et soyez sensé une fois dans votre vie, si vous pouvez. Est-il vrai que vous nous quittiez ainsi et que vous alliez si loin? Oui, mademoiselle, je dis au Val-de-Grâce un éternel adieu. Je n'y ordonnancerai plus la limonade au citron. C'est sur ma demande que je suis mis hors cadre et détaché comme stagiaire en Cochinchine. Je me suis déterminé en cette circonstance, comme en toute autre, après avoir mûrement réfléchi. Oh oui, vous souriez, mademoiselle, vous me croyez léger. Mais écoutez mes raisons. D'abord, j'échappe ainsi aux portières, femme de ménage, maîtresse d'hôtel, garçon d'hôtel, marchand d'habits et autres ennemis acharnés de mon bonheur domestique. Je ne verrai plus sourire de garçon de café. Avez-vous remarqué, mademoiselle, que les garçons de café sont uniformément surmontés d'un crâne magnifique? C'est là une observation féconde. Mais il est inutile de vous développer les théories qu'elle me suggère. Je ne verrai plus le boulevard Saint-Michel, mais je trouverai à Shanghai des monuments ostéologiques d'après lesquels j'achèverai mon mémoire sur la dentition des rats jaunes. Enfin, je perdrai ce teint vif qui témoigne, comme vous dites, mademoiselle, d'une santé insolente, et je prendrai l'aspect plus intéressant d'un citron à ces derniers jours. Il se produira dans mon foie des désordres compliqués qui exciteront vivement ma curiosité. Avouez-le, tout cela vaut bien le voyage. René Longuemare, aide-major de première classe, partait ainsi dans le jardin au pied du chalet. Il y avait devant lui une petite pelouse, une pièce d'eau avec une grotte artificielle, un arbre de Judée, des houes le long d'une grille, par-delà la grille, au loin, la belle vallée, la Seine, ondulant à gauche entre des rives d'un vert pâle, traversée à droite par la ligne blanche du viaduc et disparaissant entre cette immensité de toits, de clochers et de dômes qui est Paris. La lumière qui tombait dans le lointain poudroyant sur le dôme doré des Invalides y rebondissait en rayons. C'était une bleue et chaude journée de juillet. Quelques nuages blancs se tenaient immobiles dans le ciel. La jeune fille à qui René Longuemare parlait, assise dans un fauteuil de fer, leva sur l'aide-major ses grands yeux clairs et resta silencieuse, avec quelque chose d'incertain et de triste sur les lèvres. Ses yeux, d'une nuance indécise, avaient l'air frileux et si chargés de langueur que tout le visage qu'ils éclairaient en recevait une expression singulière de volupté, bien que le nez fût droit et les joues un peu creuses. La face, d'une nuance uniformément blême, faisait dire aux femmes « Cette demoiselle n'a pas de teint ». La bouche, trop grande, un peu molle, exprimait des instincts de bienveillance et de facilité. René Longuemare reprit avec effort ses détestables plaisanteries. « Non, dit-il, il faut vous l'avouer, mademoiselle, en quittant la France, je fuis mon bottier. Son accent tudesque m'est devenu insupportable. » Elle lui demanda encore une fois s'il était vrai qu'il partit. Alors il cessa brusquement de sourire. « Oui, je prends demain, fit-il, le train de 7h55 du matin, et je m'embarque à Toulon le 26 à bord du Magenta. » Il entendit le bruit des billes d'ivoire qui se choquaient sur le billard dans le chalet, et d'une voix méridionale qui s'écriait emphatiquement « 7h14 !» Il jeta un regard rapide à travers la porte vitrée sur les joueurs, fronça les sourcils, dit brusquement adieu à la jeune fille et partit vite, avec un visage bouleversé et des yeux gros de larmes. La jeune fille le vit un moment ainsi de profil au-dessus des houes, derrière les lances de fer de la clôture. Elle se leva, courut jusqu'à la grille, serra son mouchoir contre sa bouche comme pour y étouffer un cri, puis enfin, résolue, elle étendit les bras et appela d'une voix étranglée « René !» Elle laissa retomber ses bras, il était trop tard, il ne l'avait pas entendu. Elle se colla le front contre un barreau de fer. La détente de ses traits, l'abandon de tout son être, témoignaient d'une irréparable défaite. La voix méridionale sortie du chalet cria « Hélène, le madère !» C'était M. Feller de Sissac qui appelait sa fille. Il se dressait de toute la hauteur de sa petite taille devant le tableau où les points des joueurs étaient marqués au moyen d'anneaux de bois enfilés dans des tringles. Avec un geste magnifique, il frottait de craie le bout de sa queue de billard. Ses yeux pétillaient sous des sourcils en broussailles très épais. Il avait un air capable et satisfait, bien qu'il eût largement perdu la partie. « Monsieur Avillarde, dit-il à son hôte, je tiens essentiellement à ce que ma fille vous fasse le même les honneurs de mon madère. Que voulez-vous? Je suis patriarcal et biblique. En votre qualité d'insulaire, je vous crois bon appréciateur de tous les vins en général et du Madère en particulier. Goûtez celui-ci, je vous prie. Monsieur Havilland tourna sur Hélène ses yeux ternes et prit silencieusement le verre qu'elle lui présentait sur un plateau de laque. C'était un long personnage à longues dents et à longs pieds, roux, chauve, vêtu d'un costume à carreaux. Il avait gardé sa jumelle en bandoulière. Hélène disparut. Elle avait regardé son père avec inquiétude. Elle semblait mal à l'aise de l'entendre faire ses politesses volumineuses. Elle fit dire qu'elle était indisposée, qu'on l'excusa de ne point paraître au dîner. Dans la salle à manger, peinte comme un café de boulevard, M. Feller de Sizac versait, coupait et découpait à grand fracas. Il s'écriait « Hé, la truelle au poisson !» quand il l'avait sous les yeux. Il éprouvait le fil du couteau avec une gravité d'opérateur forain et passait sa serviette très haut dans son gilet. Il vantait ses vins et parla d'un Syracuse sec longtemps avant de le déboucher. Le jardinier, loué à l'année, faisait le service de la table avec un air goguenard et sournois. C'était une espèce de paysan faubourien qui jetait dans l'oreille de son maître d'assez vertes réparties sans que celui-ci parût les entendre. M. Havilland, qui avait le sang à fleur de peau, mangeait beaucoup, devenait très rouge, restait mélancolique. Et ne disait rien. M. Feller de Sizac, ayant annoncé qu'il ne parlerait pas d'affaires, se mit presque aussitôt à exposer ses principales opérations. Il était agent d'affaires et avait une clientèle de propriétaires et de commerçants expropriés. Les grandes percées de rue et de boulevard, si lestement poussées par M. Haussmann, lui donnaient de la besogne. Il fallait en effet qu'il eût gagné beaucoup d'argent en peu de temps, car, ce qu'il ne disait pas, on l'avait vu longtemps un portefeuille sous le bras, traîner ses bottes éculées dans les environs de la rue Rambuteau. C'est là qu'au fond d'une cour, dans un cabinet obscur, il donnait audience à quelques charcutiers en détresse. Il se fit, dans ce logis malsain, les joues bouffies et blafardes, qui ne cessèrent plus désormais de pendre des deux côtés de son visage. Une plaque de cuivre vissée à sa porte indiquait son nom, Feller, et ces mots de Sizac, entre parenthèses, comme une mention d'origine, Feller de Sizac. Sur une nouvelle plaque, au seuil d'un nouveau domicile, les parenthèses furent remplacées par une virgule après le premier nom, Feller, virgule, de Sizac. Sur une troisième plaque, posée à la suite d'un troisième déménagement, la virgule ne reparut pas et rien ne la remplaça, Feller de Sizac. Maintenant, il n'y a plus de plaque à la porte de l'agent d'affaires qui occupe en ville un appartement orné de glace au premier étage d'une maison de la rue Neuve des Petits Champs et qui a fait bâtir un chalet à Meudon. M. Feller est natif de Sizac, près Saint-Mamel à Salvetat, dans le département du Cantal, où son frère est encore aujourd'hui meunier. Aussitôt qu'il apprit qu'une partie de la butte des Moulins devait tomber pour dégager les abords du Théâtre Français, M. Feller de Sizac lança des cartes, des prospectus, des circulaires et fit des visites aux propriétaires et aux principaux commerçants des immeubles condamnés. Dans ce qu'il nommait « sa tournée », il alla voir à l'hôtel Meurice, M. Havilland, qui possédait une grande maison située au pied de la butte, près du théâtre. Cette maison appartenait à la famille Havilland depuis près de deux siècles. Le banquier, John Havilland, y établit ses bureaux en 1789. Il mit des fonds considérables à la disposition du duc d'Orléans, qu'il considérait comme le successeur désigné de Louis XVI, si, comme il le pensait, les Français s'en tenaient à la royauté constitutionnelle. Mais ni les événements dans leur marche violente, ni le duc naturellement indécis, ne se prêtèrent au projet de l'audacieux banquier. Celui-ci se retourna du côté de la cour et favorisa la contre-révolution. Il se mit en communication avec la reine par l'intermédiaire de la belle Madame Elliot. Après la chute définitive de la royauté, dans la journée du 10 août, il s'enfuit en Angleterre et resta en rapport avec le duc de Brunswick et les princes. Son caissier, David Ewart, âgé de 81 ans, voulut rester à Paris pour sauvegarder les intérêts menacés de la maison. N'ayant pu obtenir une carte de civisme et par cela même considéré comme suspect, il fut arrêté et conduit à la conciergerie où il sembla oublié pendant plus de 4 mois. Enfin, traduit le 1er thermidor 1794 devant le tribunal révolutionnaire et condamné comme conspirateur à la peine capitale, il fut guillotiné le même jour sur la barrière du trône, nommée alors barrière renversée. La banque à Milan fut sauvée de la ruine par l'énergique fidélité de ce vieillard. Mais la maison de la Butte des Moulins cessa d'en être un décomptoir. On la mit en location. Elle était bien noircie et souillée quand on la marqua pour la pioche. Sur la façade, les fenêtres étaient surmontées de la coquille de Louis XV. Un mascaron coiffé d'un casque faisait encore sa grimace héroïque sur la clef de voûte et dominait la porte cochère. Mais, située sur les confins des enseignes murales du teinturier et du serrurier, il était peint d'un côté en bleu et de l'autre en jaune. Des petits tableaux pendus à droite et à gauche de la porte et sous la voûte offraient des noms de copistes et de costumiers. À l'intérieur, l'escalier de pierre, bordé d'une magnifique grille de fer forgé, était déshonoré de poussière de crachats et de feuilles de salade. On y sentait une odeur alcaline très aigre. Des cris d'enfants s'entendaient sur les paliers, et les portes entrebâillées des logements laissaient apercevoir des femmes en camisole et des hommes en manches de chemise dans le négligé du travail ou de la flânerie. Telle était la maison à Villande à ses derniers jours. Monsieur Feller de Sizac, chargé des intérêts du propriétaire, l'avait visitée. Il avait constaté 30 mètres de façade, deux boutiques avec dépendance et 32 exploitations diverses avec matériel, y compris la remise où une marchande des quatre saisons remisait sa voiture, et la mansarde où une ouvrière cousait à la mécanique. Le tout fut mentionné dans un rapport destiné à édifier sur la valeur de l'immeuble le conseil nommé par l'administration de la ville à l'effet d'indemniser les propriétaires expropriés. Dans le cas probable où l'affaire serait portée devant le tribunal compétent, M. Feller de Sizac fournirait l'avoué et l'avocat. Monsieur Feller de Sizac invita Monsieur Havilland à dîner d'abord à Paris, puis à Meudon. Il faisait passer toute sa clientèle à sa table, agissant de la sorte par politique et par inclination. C'est devant les verres qu'il savait manier les hommes. Il était persuasif au dessert. D'ailleurs, il aimait à déboucher des bouteilles. Il appelait cela vivre. Dans les époques les moins prospères de sa vie, il sablait le vin blanc du marchand de vin avec des marrons rôtis sur la toile cirée dans un cabinet de société. C'est là qu'il donnait des consultations aux boutiquiers embarrassés. Maintenant, il recevait chez lui, Il avait de l'argenterie et du linge à son chiffre. Or, M. le Feller de Sizac et M. Avilland en étaient au café. Les feux rouges et bas du soleil couchant dorait la salle à manger du chalet. L'homme d'affaires, dont les joues mortes continuaient de pendre lourdement, faisait courir sur son hôte des yeux agiles. « Goûtez-moi ce cognac, cher insulaire, » dit-il. Ce nom d'insulaire lui semblait élégant. Il dit ensuite « Albion » pour dire l'Angleterre, mais il s'excusa d'être aussi romantique. M. Havilland but le cognac, demanda un verre de vin et dit « J'espère que l'indisposition de Mademoiselle Feller est sans gravité. » M. Feller l'espérait aussi et M. Havilland rentra dans le silence. Il se leva avec une raideur anglaise compliquée d'arthritisme, car il avait les genoux perclus de douleur rhumatismale. Son pardessus jaune sous les bras, il avait déjà franchi la grille du jardin quand il reprit la parole. « J'ai l'honneur, » dit-il à son hôte, « de vous demander la main de Mademoiselle Flair, votre fille. » Le petit homme allait probablement faire une réponse habile mais pétulante. L'Anglais lui mit un papier dans la main. « Vous trouverez là, » dit-il, « le relevé exact de ma fortune. Envoyez-moi la réponse par lettre chargée, s'il vous plaît. Ne me reconduisez pas, non, ne me reconduisez pas. » Il prit d'un pas raide le chemin de la gare. M. Feller, que rien ne surprenait d'ordinaire, était surpris. Il fit 12 fois avec agilité le tour de la grotte artificielle. La lune éclairait ses grosses joues inertes qu'il semblait, en se démenant, porter comme un masque. Il songeait. « Quoi ? Cet homme passe chez moi comme tant d'autres, comme tout le monde. Je traite 200 inconnus par an. Il ne dit rien. Il voit ma fille 6 fois. Il n'ouvre la bouche que pour me la demander en mariage. Ah ça, mais... est-ce qu'Hélène aurait mené si lestement cette scénette à 2 personnages? Mais non, je ne suis pas un père de comédie, un Cassandre. Je sais ce qui se passe chez moi. Je suis sûr que la pauvre enfant ne lui a pas adressé 4 fois la parole. Je crains même qu'elle n'accueille pas comme elle devrait ce... » Il se mordit le pouce et s'arrêta l'œil fixe, comme un homme qui mesure un obstacle. Puis il rentra délibérément dans le chalet. En passant par la salle à manger, il lut le papier que M. Havilland lui avait remis, puis il monta dans la chambre de sa fille. Il posa son cigare sur la perce rose qui garnissait la cheminée et s'assit, comme un médecin, au chevet du lit où Hélène était couchée. Il lui demanda « Eh bien, comment allons-nous, ma mignonne ?» Comme elle ne répondait pas, il ajouta « Monsieur Havilland a demandé ce soir de tes nouvelles d'une façon vraiment bien affectueuse. » Après une pause, de la voix grasse d'un homme qui a bien dîné « Comment le trouves-tu ?» Il n'obtint pas de réponse encore. Mais à la lueur de la bougie qui brûlait sur la cheminée, il vit qu'elle avait les yeux ouverts et fixes, le front contracté à un air de pénible réflexion. Il jugea très justement qu'elle connaissait les intentions de M. Havilland, et il ne craignit plus de frapper un coup brusque. Et il lui dit « M. Havilland te demande en mariage. » Elle répondit « Mais je ne veux pas me marier, je me trouve bien avec toi. » Alors il se ramassa dans la causeuse, ajusta ses poings sur ses genoux et tira un souffle sifflant de sa gorge ulcérée de liqueur et tapissée de sucreries. Il prenait son attitude d'homme d'affaires. « Fillette, tu ne me demandes pas ce que je lui ai répondu ?» Eh bien, que lui as-tu répondu ? « Ah, mon enfant, je n'ai rien dit qui pût t'engager en aucune façon. J'ai voulu te laisser libre. Je ne me reconnais pas le droit de t'imposer ma volonté. Tu sais bien que je ne suis pas un tyran. » Elle s'accouda sur l'oreiller. « Non, dit-elle, tu es un excellent père. Et puisque je ne veux pas me marier, tu ne me forceras pas. » Il reprit avec bonhomie. « Je te le répète, ma fille, tu seras libre comme l'air. Mais nous pouvons bien causer de nos petites affaires. Je suis ton père, je t'aime. Je puis te dire des choses que tu es assez grande fille pour entendre. Voyons, causons comme une paire d'amis. Nous vivons bien, tous les deux, nous vivons même très bien. Mais nous n'avons pas ce qu'on appelle une fortune assise. » Je suis le fils de mes œuvres. Je suis arrivé trop tard, trop tard. Il coulera de l'eau sous le pont avant que je t'aie amassé une dot. Et d'ici là, qui sait ce qui arrivera? Tu as 22 ans et le parti qui s'offre à toi aujourd'hui n'est pas à dédaigner. C'est même ce que j'oserais appeler une trouvaille. Avilande n'est pas à proprement parler un jeune homme. Tu vois, fillette, que je suis juste, mais c'est un gentleman, un vrai gentleman. Il est très riche. » Ayant la bouche pleine de ce dernier mot, il frappait la poche de son habit dans laquelle était le papier que l'anglais lui avait remis. Il poursuivit en s'échauffant. « Ce diable d'Avilan est à la tête d'une fortune magnifique. » Des immeubles, des bois, des fermes, des valeurs en portefeuille et tout, c'est superbe !» Elle fit une grimace de dégoût et haussa les épaules. Il sentit qu'il était brutal. Il reprit. « Ne crois pas, fillette, que je veuille devoir faire ce qu'on appelle un mariage d'argent. Non, je t'aime et je veux ton bonheur. » Il aimait véritablement sa fille, et son amour paternel lui mit de l'attendrissement dans la voix. Il reprit. « Dieu m'est témoin que je ne veux que ton bonheur. Je sais ce que c'est que le sentiment. Et quand j'ai épousé ta mère, je ne l'ai pas regardée au magot. Mais veux-tu que je te dise? Moi, je suis un rêveur, un sentimental. Oh, je suis romantique au fond. Sais-tu ce que j'aurais fait si les circonstances l'avaient permis? J'aurais fait de la poésie à la campagne. Mais que veux-tu? J'ai été pris corps et âme par les affaires. Maintenant, je suis dans l'engrenage jusqu'au cou. Ah, dame, la vie n'est pas toute rose, et il faut savoir faire des sacrifices. Eh bien, ma fillette, mon rêve est de te les épargner, à toi, les sacrifices. Je veux t'éviter les gênes, les misères de l'existence. C'est assez que ta pauvre mère les ait éprouvées et soit morte à la tâche. Morte à la tâche, tu m'entends? » Il passa le revers de sa main sur ses yeux. Il était vraiment ému. Dans le fait, sa femme était morte phtisique dans sa famille à Niort, où il l'avait renvoyée pour se tirer plus lestement d'affaires, seul. Mais il se grisait et s'attendrissait à toutes les paroles qui lui venaient. Il prit entre ses mains la tête de sa fille, la couvrit de baisers, et dans un grand élan. « Écoute-moi, dit-il, je te connais bien, ma Lily. Il te faut du bien-être, du luxe. Ah, c'est ma faute, j'ai été trop ambitieux. Je n'ai rien trouvé de trop grand ni de trop beau pour toi. Je t'ai élevé pour la fortune. Tu n'as appris ni à te servir, ni à compter. Si tu ne deviens pas riche, tu seras la plus malheureuse des femmes, et c'est moi qui aurai fait ton malheur. Quelle responsabilité pour ton pauvre père, mais j'en mourrai. Mais elle est venue, la fortune. Elle est là, qui frappe à ta porte. Hein, petite, nous lui dirons d'entrer. Vois-tu bien? Je t'aime, je t'adore, ma fillette. Je sais ce qui te convient L'amour ne trompe pas. Laisse-moi faire. » Hélène demanda d'un ton négligent si M. Haviland avait l'intention de se fixer à Paris. « Oui, certes, » s'écria M. Feller, qui n'en savait absolument rien. Il ajouta que son futur gendre était élégant de manière et capable encore de tourner la tête à bien des jeunes femmes. Et quant à ses sentiments, ils étaient d'une délicatesse. M. Feller ne pouvait concevoir qu'on eût des sentiments si délicats. Il frappa le dernier coup, parla d'hôtels, de voitures, de bijoux. Hélène songeait que René Longuemare était parti, parti bien loin et pour longtemps, sans un mot d'amour, sans un mot de regret. S'il avait dit seulement qu'il reviendrait, qu'il emportait une pensée, un souvenir, mais rien. C'est donc que René ne l'aimait pas. Non, il n'aimait que ses livres, ses fioles, son scalpel et ses pinces. Il l'avait distingué pour sa complaisance à l'écouter, voilà tout. Il lui disait mille folies à elle, comme à une autre, comme à tout autre. Pourtant, s'il l'aimait en secret, comme elle avait cru plusieurs fois le sentir, eh bien, elle se vengerait de sa désertion. Puis, son père disait vrai, elle était élevée pour la richesse, elle avait la vocation du luxe. D'ailleurs, comment résister? Quelle fatigue de se débattre! Le premier assaut l'avait accablé déjà. Son père reviendrait à la charge. Hélène était de ces âmes qui acceptent d'avance la défaite. Enfin, l'amour de l'étranger la flattait. Elle savait, à des indices certains, combien cet amour était profond et vrai. Cet homme, qui touchait au déclin, qui avait parcouru 25 ans la terre entière sans se désennuyer, qui, haut de glace pour tout le monde, s'éprenait d'elle comme un jeune homme et qui, après 3 mois de visite presque silencieuse, lui offrait son nom et sa fortune, cet homme-là n'était-il pas, comment dirais-je, étrange, chevaleresque, généreux, et ne pouvait-on pas l'aimer? Elle souleva sa belle tête d'expression indécise et murmura « Bof, nous verrons. » Il est bien vrai qu'Hélène Feller avait été élevée pour être riche. Elle se rappelait de son enfance les bas troués, le froid aux pieds, les assiettes de charcuterie qu'elle abominait, les stations sous les portes cochères, pendant les déménagements, et le visage allongé de sa mère dans les soirées d'hiver. Elle se rappelait sa mère chantant ou grondant, agitée ou brisée, tourmentée, tourmentante. Une fois, elles étaient toutes deux en voyage. Où cela, ou quand cela, Hélène ne le savait plus. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était petite alors. C'était la nuit. Sa mère, l'ayant tournée contre la ruelle, lui avait dit impérieusement « Dors !» Puis la pauvre dame avait ôté sa chemise et l'avait lavée dans la cuvette. Hélène s'amusait beaucoup de sa maman, entortillée d'un châle sur la peau et savonnant. Mais plus tard, quand elle découvrit que sa mère avait fait cela parce qu'elle était pauvre, elle fut saisie d'effroi. Elle était, dans sa petite enfance, une affectueuse et délicate créature. Elle s'attendrissait sur toutes les souffrances qu'elle pouvait comprendre. Elle donnait aux petits pauvres des bonbons et des chiffons de poupées. Elle eut en cage un moineau qu'elle bourrait de sucre et qui périt écrasé contre une porte. Ce moineau lui procura des trésors de joie et de douleur. Praxo éleva un tombeau à sa cigale par qui elle connut qu'on meurt. Ainsi le poète de l'anthologie fait parler l'enfant ionienne. Hélène ressentit à la mort de son moineau une sorte d'effarement qui lui resta pendant toute une saison. Sa mère, fanée par la misère et sans cesse agitée par la jalousie que lui donnait un mari beau parleur, noctambule et avide d'argent de poche, n'avait pas cette quiétude, cette paix du cœur, cette présence assidue d'un esprit vigilant qu'il faut aux mères même pour développer avec adresse et bonheur les petites âmes obscures qu'elles ont mises au monde. Hélène, embrassée ou fessée, sans savoir pourquoi, prononçait à distinguer ses bonnes actions de ses mauvaises et s'engourdissait. « Mais cet enfant me fera mourir !» s'écriait tout à coup Madame Feller. « Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'ait donné un monstre pareil !» Puis c'était des vociférations, des sanglots, des poings crispés, des portes claquant avec fracas, les chambranles. La pauvre petite, haletante et le cœur gros, se coulait sans bruit dans sa couchette et s'endormait avec des larmes sur les joues. Le lendemain matin, elle se réveillait sous une musique de baisers, de douces paroles, de jolies cantilènes que lui versait sa maman, tout éclairci depuis la veille par quelques tardives attentions de M. Feller. Quant à son papa, Hélène le trouvait très beau, très bon, très grand. Ses épais favoris et ses gilets blancs lui semblaient miraculeux. M. Feller était un dieu pour sa fille, mais à la manière des dieux, il se montrait rarement. Absent tout le jour, il rentrait tard. Il est vrai qu'après certains mécomptes éprouvés au dehors, il avait des poussées d'assiduité domestique. Il promenait sa Lily au jardin des plantes, l'amenait en voiture, la conduisait dans les cafés où on lui servait de l'eau sucrée ou même des sirops. De plus, elle trempait le bout de sa langue dans le verre de son papa et faisait une grimace au goût amer de la boisson verte. C'était délicieux, mais c'était rare. Et le dieu s'évanouissait. Madame Feller n'en devenait ni moins maussade, ni moins irritable, certes. Hélène, près d'elle, dans sa petite chaise, songeait à son papa avec de grands élancements d'amour, et le fantôme du merveilleux gilet blanc apparaissait à ses yeux éblouis. Mais elle était paresseuse et se plaisait à ne rien faire. C'était d'ailleurs ce qui lui réussissait le mieux. Madame Feller ne prenait pas garde aux flâneries silencieuses de sa fille, et il suffisait au contraire qu'une traînée de rire enfantin pour la faire éclater en reproches. Hélène était d'un sensualisme précoce. Elle aimait d'instinct le luxe et raffinait comme elle pouvait sur l'ordinaire de la maison. Son penchant pour les délicatesses de la table et du vêtement faisait la joie de M. Feller, qui était un connaisseur. Elle avait 7 ans quand il la mit en pension à Auteuil chez les Dames du Calvaire. Les robes blanches, le visage blanc des mères, la paix de la maison, la sécurité d'une vie régulière, lui firent du bien. Un jour, on lui dit que sa maman, qui était partie en voyage, ne reviendrait plus, plus jamais. Ce « plus jamais » lui fit une grande peur et elle étouffa de sanglots. On lui mit un sarrau noir et on la lâcha dans le jardin. Ce jardin était pour elle une contrée merveilleuse, immense, pleine de choses vivantes, un monde enchanté, une terre de miracles. Son père venait la voir toutes les semaines et lui apportait des gâteaux. Il était admirable d'amour et d'orgueil paternel. Lasse de tous les trottoirs battus pour rien, de tous les escaliers montés avec angoisse, de toutes les portes fermées au nez, de tous les courriers écrits sur le coin d'une table de café, crottés de toutes les boues, ayant parfois relancé le client jusque devant le saladier de vin chaud des Bals de Faubourg, chien errant de la chic à l'interlope. Il apparaissait tous les jeudis, brossé, lustré, ganté, rasé de frais, avec du linge blanc, dans le parloir des dames du calvaire. Alors il avait l'air heureux, la mine reposée. Ses grosses joues blanches étaient tout à fait convenables. La mère Sainte-Geneviève, directrice de la maison d'Auteuil, lui témoignait beaucoup de considération. Deux des plus grandes pensionnaires rêvaient de lui au dortoir. Hélène admirait beaucoup son papa. Et vraiment, M. Feller était héroïque à sa façon. Un jour qu'il était dénué de toute monnaie, il emprunta à un de ses confrères les poésies d'Alfred de Musset qu'il vit sur la table. « Je veux les relire une centième fois, » dit-il. Et il alla les vendre sur les quais pour acheter des gants qu'il boutonna négligemment le lendemain devant la sœur Tourière. Les gâteaux qu'il apportait à chaque visite pour Hélène et ses amis venaient de quelques pâtissiers marquants, et les bonbons étaient dans des boîtes de haut goût, à emblème et à surprise. La mère Sainte-Geneviève, l'ayant prise en grande estime, le consulta un jour sur quelque affaire litigieuse. Il offrit son temps, son activité, ses lumières. On daigna les prendre. Il rayonnait de joie et d'orgueil. Dans son désir de plaire, il mit à ses mémoires des faveurs bleues, et il traitait avec onction les matières contentieuses. Quand il feuilletait des dossiers devant la révérende mère, il se bouillait le pouce du bout de la langue avec beaucoup de discrétion et une sorte de pudeur. Chaque consultation, il est vrai, le mettait au supplice, mais c'était une torture délicieuse. Il subissait pendant des heures entières les explications de cette dame bornée, défiante, entêtée et douce, qui se dérobait ensuite à toute démonstration avec l'aisance d'une longue habitude. Cette belle femme blanche, un peu bouffie, qui, les yeux baissés et les mains dans les manches, ne parlait qu'à voix basse, l'intimidait extrêmement. Qu'il se sentait mieux à l'aise avec ses clients ordinaires, les cabaretiers suburbains et les fabricants brevetés de ceintures hygiéniques qui venaient jeter sur son bureau un cylindre avec d'effroyables jurons, une botte de jugement et d'assignation. La mère Sainte-Geneviève avait les grandes manières d'une abbesse de l'Ancien Régime. Une de ses élégances était de ne jamais soupçonner M. Feller d'avoir besoin d'argent. Il avançait constamment à la communauté des sommes dont la moindre lui coûtait des combinaisons à faire éclater une cervelle ordinaire. Mais aussi, quelle volupté pour lui d'entendre le dimanche les vêpres dans une tribune de la chapelle parfumée d'encens et d'iris, et de découvrir dans la nef sa fille penchée sur son livre d'église, entre la nièce d'un conseiller d'État et la cousine d'un prince monténégrin. Après avoir contemplé la belle chevelure de son enfant et les épaules un peu pointues mais fines dans le corsage de mérinos brun, les verres de ses lunettes se brouillaient et ils se bouchaient comme au théâtre après les situations émouvantes. Les affaires de la communauté lui coûtèrent quelque argent mais lui procurèrent des relations avantageuses. « J'ai la vogue, » pensait-il. Et ses gilets, tant de piquets blancs que de velours imprimés, mouchetés et frappés, se bombaient sur sa poitrine avec une ampleur nouvelle. Hélène grandissait et devenait belle. Ses cheveux, longtemps trop pâles et fades, comme ceux de sa mère, se doraient magnifiquement. Elle était douce, paresseuse, dégoûtée, avec de grands élans d'affection et des attendrissements rapides. On avait bien du mal au réfectoire à lui faire manger autre chose que de la salade et du pain avec du sel. Elle s'était faite une amie chez qui elle allait les jours de sortie, Cécile. Cette amie, fille d'un agent de change, était une petite personne de 16 ans, à la fois puérile et vieillotte, coquette, pas très méchante ni malfaisante, nullement dépravée, faute d'imagination, mais très riche. Elle avait l'esprit d'une femme de 30 ans, tout à fait nulle, ce qui lui donnait parmi ses compagnes le prestige d'une nature extraordinaire. Elle mena Hélène chez son père à Passy, dans la chambre capitonnée où elle croquait des bonbons. Hélène s'alanguissait dans ce nid d'étoffe. Quelque chose de son âme s'y étiolait. Quand elle en sortait, tout lui semblait terne, dur, rebutant. Elle n'avait plus de courage. Elle rêvait d'avoir une chambre bleue et d'y lire des romans, couchée dans une chaise longue. Il lui vint des maux d'estomac qui achevèrent de l'abattre. Une nuit, il eut une folle alerte dans les couvents. On cria « Au feu !» Toutes les pensionnaires sautèrent du lit et roulèrent ensemble dans les escaliers, les unes en jupon, les autres enveloppées de couvertures. Les petites suivaient en hurlant, les bras tendus et les pieds embarrassés dans leurs longues chemises de nuit. On reconnut bientôt qu'il n'y avait pas d'incendie. La mère Sainte-Geneviève gronda toutes ses folles et félicita Hélène de n'avoir pas quitté son lit. Elle n'avait pas bougé, en effet, par mollesse, par cette sorte de lâcheté qu'elle avait devant la vie. Elle laissait faire, indifférente à ce qui l'entourait, rêvant de bijoux, de robes, de chevaux, de promenades, en bateau et fondant en larmes à la seule pensée de son père. Elle sortit du couvent, sachant saluer dans un salon et jouer une valse sur le piano. Elle retrouva la maison paternelle montée à neuf. Elle en fit les honneurs. Elle eut sa chambre bleue. Son père avait pour elle des bontés, des prodigalités de vieux protecteur. Il la menait dans les petits théâtres et la faisait souper après le spectacle. Il croyait bien faire. Une cruelle déception pour elle fut de découvrir que ce père, si bon, si facile, n'était pas le gentilhomme qu'elle voyait autrefois dans le parloir du couvent. Ses manières d'opérateur forain, ses politesses de table d'hôte la blessaient cruellement. Elle avait appris la bienséance chez les dames du calvaire. Elle avait le goût noble et le tact de ce qui décent. Sa beauté lui attirait des hommages d'une vivacité brutale qui l'indignait. Personne ne songeait à la demander en mariage. Elle fut reprise de maux d'estomac. Tous les hommes qu'elle voyait chez son père lui semblaient ennuyeux. Ils se ressemblaient tous. Empressés, inquiets, sentant la fièvre se rongeant les ongles, c'étaient des gens surchauffés qui brûlaient leurs bottes, leurs chevaux, leur vie. Enfin, il en vint un qui l'intéressa. C'était un jeune chirurgien militaire, René Longuemare. Envoyé par son père, vieil agent envoyé des Ardennes, chez M. Feller de Sizac, pour quelque affaire, il s'habitua à la maison de la rue Neuve des Petits Champs et y devint assidu. Bien qu'avec sa robuste charpente et sa face colorée, il ne fût pas beau, et quoique sa conversation eût des rudesses et des obscurités, elle aimait à le voir et se plaisait à l'entendre causer. Il lui tenait sur la religion et sur la morale, des propos à faire dresser les cheveux sur la tête, mais qui l'amusaient, sans qu'elle y comprît grand-chose. « L'homme descend du singe !» lui disait-il. Et comme elle se récriait, il donnait à sa thèse des développements tour à tour ardus et comiques. Longuemare amena quelques amis et un cercle de jeunes savants fut ainsi formé chez ce bon M. Feller, qui n'y fit jamais aucune attention. L'aide-major avançait des propositions telles que celle-ci. « Oh, la vertu est un produit comme le phosphore et le vitriol. L'héroïsme et la sainteté sont l'effet d'une congestion du cerveau. La paralysie générale fait seule les grands hommes. Les dieux sont des adjectifs. Mais les choses ont toujours existé et existeront toujours. « Fi donc, lui disait-elle. » Mais elle se délectait au timbre de cette voix mâle et jeune. Elle admirait, comme une force mystérieuse, cette intelligence expansive et libre qui, le soir, entre une tasse de thé et un verre de kirsch, lui jetait à elle, jeune fille, et les curiosités, les magnificences et les horreurs de la nature, pêle-mêle, ainsi qu'un tribut de barbares, au pied d'une reine surprise et flattée. Cependant, on entendait dans le salon des voix mornes qui parlaient de traites impayées, de jugements du tribunal de commerce et de travaux de maçonnerie mis en adjudication. Puis vint une ombre qui erra silencieuse entre les groupes divers, une grande ombre raide et rousse, de forme à la fois grotesque et noble. C'était l'âme en peine de M. Haviland. Et Hélène ne confondait pas celui-là avec les autres. Elle lui trouvait de la noblesse, une grande distinction d'âme, et elle se savait aimée de lui, bien qu'il ne lui parlât jamais. Quant à Longuemare, en dépit de toutes ses audaces scientifiques, il était naïf. Il la respectait profondément et l'admirait en silence. Après avoir fait grand étalage de brutalité, il trouvait pour elle les paroles les plus délicates. Il était toujours gai devant elle. C'était souvent par complexion. C'était quelquefois aussi par courage, car il l'aimait et plutôt que de le lui dire, il se fût coupé la langue avec les dents. Il n'avait que sa solde en attendant mieux. Quant à Mademoiselle Feller, il ne doutait pas qu'elle ne fût très riche. Elle le raillait, feignait de le croire très étourdi et pis que cela, mais elle s'attacha lentement et profondément à lui, jusqu'au jour où il vint à Meudon lui faire un brusque adieu.